France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20, c'est une affaire qui pose à nouveau la question du droit à l'euthanasie en France. Un vétérinaire du Maine-et-Loire vient d'être jugé pour avoir aidé un homme à mourir, un homme qui souffrait de la maladie de Charcot, qui est une maladie incurable. Le tribunal correctionnel d'Angers a décidé de relaxer le vétérinaire et son avocat est notre invité. Bonjour Antoine Barré.
Bonjour.
Avant de mesurer la portée de cette relaxe, il faut que vous nous racontiez l'histoire, le lien entre ces deux hommes. Ils se connaissaient bien, ils étaient amis.
Oui, il s'agissait de deux amis, naturellement, de deux personnes qui se fréquentaient régulièrement, et en particulier depuis que la personne qui est décédée effectivement avait reçu l'annonce de sa maladie, la gravité, qu'elle avait pris conscience de la gravité de sa maladie, de son caractère incurable, comme vous l'avez signalé, mais également des immenses souffrances qui l'attendaient, puisqu'il s'agit d'une maladie neurodégénérative et une maladie qui conduit les personnes à perdre, comme on peut dire, la propriété de leur corps, la propriété de leur avenir, et qui va entraîner une coupure avec le lien extérieur et qui, naturellement, les expose à des souffrances psychiques comme physiques.
Et on garde toute sa tête, il faut le signaler, avec la maladie de Charcot, on est conscient de ça, on garde toute sa tête.
Exactement, du moins dans un premier temps, oui.
Et c'est lui qui donc fait la démarche d'aller voir le vétérinaire et qui lui demande de l'aider à mourir, ça s'est passé comme ça ?
Alors dans le cadre de leur relation, oui, petit à petit, évidemment, il s'ouvre au vétérinaire de sa maladie et il va lui demander d'avoir recours à des produits qui lui permettent de choisir le moyen et le moment d'en terminer par lui-même. Et c'est ce qui va se produire.
Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'avant ça, il a fait trois tentatives de suicide, donc il n'y avait aucun doute sur ses motivations, il voulait mourir.
Absolument, il est évident que lorsque le dossier s'est présenté au tribunal, c'était avec cette certitude, confortée par l'entourage d'ailleurs de la personne qui est décédée, son entourage qu'il avait le souhait absolument irrévocable d'en terminer lui-même et dans des conditions choisies.
Et donc, le vétérinaire a fini par lui faire une ordonnance et à lui prescrire des produits létaux, c'est ça ?
C'est ça exactement. C'est-à-dire que le vétérinaire va faire des ordonnances qui sont des faux, très clairement, des faux au sens matériel, de fausses ordonnances pour lui permettre d'obtenir les produits létaux.
Et donc,
avec cette précision que... Oui.
Non, allez-y.
Avec cette précision que il était précisément le vétérinaire poursuivi devant le tribunal pour avoir confectionné ces faux et en avoir fait usage donc pour obtenir la délivrance des médicaments létaux.
Oui, on va revenir sur cette précision qui est très importante, mais juste, oui. Je voulais quand même repréciser, vous le disiez, sa famille était au courant, ses proches étaient d'accord, donc il n'y a pas eu de plainte portée par la famille. Donc pourquoi il y a eu un procès ? C'est parce qu'il y a eu une autopsie, c'est ça ?
Alors, il y a eu un procès parce que, alors évidemment, il y a une autopsie qui a permis de révéler les causes exactes du décès, mais il y a eu un procès en raison des faux en écriture dont
D'accord.
je viens de parler, des fausses ordonnances, et qui, isolés de leur contexte, constituent évidemment des faits qui peuvent être poursuivis dans une juridiction comme n'importe quel faux. À propos de la famille, je tiens à préciser que cette famille donc était présente au tribunal, comme elle avait été présente dans le cadre de la procédure d'instruction qui a précédé l'audience. Et dans les deux cas, cette famille a soutenu le vétérinaire poursuivi en confortant donc l'opinion des juges quant à la volonté de la personne décédée, effectivement, d'en finir par une mort choisie.
Antoine Barré, il est important de rappeler qu'en France, l'euthanasie est illégale, tout comme l'aide au suicide. Ce qui est autorisé, c'est uniquement une sédation profonde jusqu'au décès. Ça veut dire qu'on endort le patient jusqu'à ce qu'il meure de manière naturelle. Or, avec la maladie de Charcot, l'homme dont on parle depuis tout à l'heure, il aurait pu vivre longtemps.
Le pronostic...
Ça, il ne supportait
vital,
pas
dans cette maladie est de l'ordre de 3 à 5 ans selon la documentation scientifique disponible actuellement. Il était déjà atteint manifestement depuis 2016 et il est décédé en 2019. Mmh. Donc, ça signifie qu'on était effectivement proche d'une issue, quelle qu'elle soit. Mmh. Mais lui, la personne décédée, ne tolérait absolument pas précisément de devoir en terminer sur un lit d'hôpital, c'est-à-dire hors de son contexte de vie habituel, et dans un état de végétatif ou de dégénérescence en tout état de cause, qui l'aurait donc coupé de son entourage évidemment, mais coupé de lui-même également.
Donc le vétérinaire s'est retrouvé au tribunal, hein, poursuivi pour faux et usage de faux, hein, oui. Parce qu'il a rédigé, vous nous l'avez dit, oui. une fausse ordonnance. Oui. Comment vous avez réussi à convaincre le tribunal de le relaxer ? Quelle a été votre ligne de défense ?
Alors la ligne de défense, c'est ce qu'on appelle l'état de nécessité, c'est-à-dire qu'il existe un article du Code pénal, qui est l'article 122.7 du Code pénal, qui permet effectivement soit d'échapper aux poursuites, soit de ne pas être condamné, lorsque l'infraction pénale que l'on a commise a eu pour raison d'être le fait, soi-même ou autrui, à un danger.
Attendez, je vais vous demander de reformuler l'explication parce qu'il y a une petite coupure et je pense que les mots sont importants et je suis pas sûr qu'on ait bien compris. D'accord. C'est quoi exactement l'état de nécessité ?
L'état de nécessité, c'est une circonstance exonératoire de responsabilité pénale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être condamné dans cette hypothèse-là, c'est-à-dire celle où on a commis un délit pour éviter un danger plus grave, un danger qu'on appelle supérieur, c'est-à-dire d'une gravité telle que le délit est en quelque sorte excusable ou pardonnable. Mmh. Ce qui est très intéressant dans cette notion, c'est que elle a subi plusieurs extensions par la jurisprudence, elle est d'ailleurs d'origine jurisprudentielle à l'origine, et elle a subi plusieurs extensions pour pouvoir répondre aux préoccupations de l'époque. Et aujourd'hui, il est intéressant de voir utiliser ce texte pour pouvoir répondre à la préoccupation de la fin de vie ou de la fin de vie choisie, qui est l'un des thèmes qui est préoccupant pour énormément de gens dans la société aujourd'hui.
Antoine Barry, il nous reste quelques secondes, mais il y a une question importante. Est-ce que ça peut faire jurisprudence, cette décision inédite, cette relaxe ?
Alors, est-ce que ça fera jurisprudence ? C'est plutôt ça.
Ouais.
Ça peut faire, oui, ça peut toujours faire jurisprudence. Est-ce que ça fera jurisprudence ? Je n'en sais rien, les juges sont libres. Je tiens à préciser qu'à Angers, le tribunal correctionnel a fait preuve d'un immense courage d'abord, et puis certainement en prenant cette décision, et aussi d'innovation. Les tribunaux sont souvent là pour innover, pour créer précisément des espaces de liberté, contrairement à ce qu'on peut penser souvent, et c'est en créant ces espaces pousse aussi le législateur à intervenir, parce que nous sommes tout de même dans une situation en France où il y a une impasse législative sur ces questions de fin de vie, nonobstant les dispositions de la loi Leonetti que vous avez rappelées, mais qui ne permettent pas en tout état de cause à une personne de choisir sa fin d'existence, comme ça peut être le cas, par exemple, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, dans pas mal de pays qui nous en Suisse, bien sûr, dans pas mal de pays donc qui nous entourent.
Merci beaucoup, Antoine Barré, pour vos explications. Vous étiez l'invité du 5-7.